cette année, il y a donc eu « Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif et maintenant je suis vide juif ». Pour la première fois en France, un terroriste vise des chrétiens en tant que chrétien. C'est en tout cas l'hypothèse retenue aujourd'hui. Avec un détail supplémentaire qui ne doit pas être négligé, Villejuif abrite l'une des plus grandes églises coptes de la région parisienne. Est-ce celle qui a été visée par ce projet d'attentat, s'il est encore impossible de répondre à cette question, il est temps de relier les choses entre elles. Les exécutions de chrétiens dans le monde se multiplient sans que le monde occidental en prenne la mesure exacte. Les barbares de Daesh tuent en Éthiopie, en Libye et ailleurs des fidèles de la croix dans une indifférence relative. Et le pire, c'est que nous n'en prenons pas conscience alors même que tout en ce moment nous rappelle le martyre passé des chrétiens d'Orient. Je veux évidemment en parler du génocide arménien que l'on commémore ces jours-ci. Et oui, nous commémorons la tragédie arménienne. Près de 2 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, soit les 3/4 de la population arménienne. Et nous ne faisons pas de lien entre ce qui s'est passé hier et ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Cela ne signifie pas, bien sûr, que la situation est identique. L'histoire, on le sait, ne bégaye pas. Mais une compréhension du passé nous permettrait de savoir que les minorités chrétiennes d'Orient ont déjà été persécutées, que celles-ci soient coptes, orthodoxes, yézidis, chrétiens, assyriens. Ne les oublions pas. Ne les oublions pas, non pas parce qu'ils seraient plus nos frères que les musulmans ou des bouddhistes. N'oublions pas les chrétiens d'Orient parce qu'ils ont déjà été massacrés dans l'indifférence générale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Ne les oublions pas parce qu'au XXIe siècle, un siècle après le XXe, le tragique, c'est que nous ne pouvons pas oublier que l'histoire est tragique.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et c'est d'ailleurs une page tragique de l'histoire qui m'a donné l'idée de cette émission. Figurez-vous que j'ai lu dans le New York Times un article qui évoquait les conséquences du 11 septembre. Et cet article évoquait les centaines de personnes tuées dans les tours du World Trade Center, des personnes qui travaillaient dans des bureaux. Et il expliquait, ce papier du New York Times, les efforts qu'il avait fallu déployer pour retrouver les mots de passe de ces gens. Car aujourd'hui, chacun d'entre nous vit avec une multitude de mots de passe. C'est pour parler de ces désormais précieux mots de passe. Je suis en compagnie de Gaëtan Leran. Bonjour. Vous êtes chercheur en cryptographie à l'INRIA, à l'Institut de recherche sur les technologies de l'information. En face de vous se trouve Guillaume Desnaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement en Europe de Dashlane, gestionnaire de mots de passe. Notre reporter Raphaël Montou est des nôtres. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Michaël Dandrieux, vous êtes sociologue de l'imaginaire, cofondateur d'Eranos. Puis nous devions également avoir Adrienne Charmet-Alux, qui s'est décommandée peu de minutes avant l'émission, je tenais à le préciser. Michaël Dandrieux, il y avait des mots de passe avant l'ordinateur. Les mots de passe ont leur histoire. Pouvez-vous nous la résumer?
Ce qui se joue ici, en fait, c'est tout ce qui est de la culture humaine, qui est la culture du mystère. On sait d'antique mémoire peut-être qu'il n'y a pas de société sans secret, que pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait un partage de quelque chose qui ne soit pas divulgable. On sait aussi que tout ne peut pas être dit, que tout ne peut pas être diffusé, et que par conséquent, il faut garder à soi, il faut produire de la réserve. Et ce qui a pendant longtemps été l'invention de la clé, de la serrure, peut-être il y a 4000 ans maintenant, est devenu aujourd'hui ce que nous faisons avec les mots de passe qui sont en réalité des allégories des clés et des serrures. D'ailleurs, le mot anglais, on a gardé une trace.
Password.
Exactement. Ou keyword, qui est à peu près la même chose. Cette idée, c'est donc qu'il existe une communauté de personnes qui sont en possession d'une clé d'entrée qui va permettre de passer de l'autre côté d'un seuil dans lequel on a mis des informations, importantes ou pas par ailleurs, mais qui symboliquement vont être réservées. Une petite communauté, ça va être moi, ma famille, mes enfants, quelqu'un que j'aime, etc. etc. Et donc il y a deux choses qui se jouent et qui sont importantes ici. La première, c'est qu'est-ce qui est de l'autre côté de cette frontière? Quelles sont les choses que je souhaite me réserver? Quel est le mystère? Et puis la deuxième, c'est quelle est la clé? Quelle forme est-ce qu'elle va prendre et dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir ne pas la conserver? Et ce qui est très important de voir, c'est que depuis les générations des hommes, on a œuvré à l'élaboration de moyens techniques qui vont nous permettre justement de produire cette clé.
Il y a quelque chose de quasiment magique dans l'idée du mot de passe, puisque avant qu'il y ait des ordinateurs, il y avait déjà des hommes qui maniaient les mots, il y avait des mots auxquels on prêtait un pouvoir magique et on retrouve finalement ces vieilles allégories, comme vous dites, l'idée qu'un mot, par exemple, pourrait être caché dans le texte biblique. Bref, toute une série de croyances dans les mots qui font que ce mot de passe, aujourd'hui, il a des vertus particulières, Michael Dandrieux.
Oui, c'est la gématrie à laquelle vous faites référence, c'est-à-dire le fait de retrouver à l'intérieur du texte divin un certain nombre d'anagrammes qui sont des anagrammes qui ont des pouvoirs magiques.
Avec donc dans ce qu'on appelle en hébreu la gématria et en français la gématrie, l'idée que chaque lettre a une correspondance en chiffres et que l'on peut donc assimiler les chiffres et les mots.
Exactement, et qu'il y a une espèce de... Il y a un grand code du monde et que ce code du monde pourrait être déchiffré à un moment donné. Et ce qui est important, c'est que derrière ça, du coup, ça crée du mystère. Et donc, ce qui crée du mystère crée du désir. On a envie de pouvoir rentrer, on a envie de pouvoir pénétrer. On se sent toujours ravi d'être le dépositaire de ce mystère et de ce secret. De certaine manière, ça donne aussi même du pouvoir sur soi et sur son environnement immédiat.
On a donc cette histoire du mot de passe qui est une histoire très ancienne. On a aussi une histoire tout aussi ancienne qui rejoint une autre science. Cette fois-ci, on s'éloigne de la science biblique, celle qui permettait de faire des interprétations du texte sacré. On rejoint en revanche ce qu'on appelle la cryptographie. Qu'est-ce que la cryptographie, Gaëtan Leurent ?
La cryptographie, de façon générale, c'est une science qui est entre les mathématiques et l'informatique et qui va essayer de permettre d'avoir des communications sécurisées en présence d'un adversaire. Donc on va s'intéresser à des situations où on a deux personnes qui veulent communiquer et une autre personne qui n'est pas autorisée à lire les messages ou ce genre de contexte. Et alors il y a deux principaux objectifs pour la cryptographie. Le premier, ça va être d'identifier les individus. Donc par exemple, si vous essayez de lire vos mails, vous allez vous connecter sur le serveur de mail. Et le serveur de mail va essayer de vérifier que c'est bien vous qui êtes en train d'accéder au mail pour pas donner vos mails à quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est là où on va avoir besoin d'une façon d'identifier les individus et on va utiliser la connaissance d'une certaine information secrète. Alors de façon générale, on appelle ça une clé en cryptographie et quand cette clé elle est retenue par un humain, on va appeler ça un mot de passe.
Alors c'est une science qui existait avant l'invention des ordinateurs, qui évidemment a obtenu un tout autre déploiement depuis que les ordinateurs existent. Certains d'entre nous... Parmi nos auditeurs, on a peut-être vu le film consacré à Alan Turing, l'un des fondateurs de la science informatique, lequel a réussi à percer le code Enigma, qui était le code utilisé par les nazis pendant la guerre. Et Turing est responsable d'un nouveau déploiement à la fois de la cryptographie et de l'ordinateur, preuve que ces deux disciplines sont aujourd'hui intimement liées.
Tout à fait. Le développement de la cryptographie a été au départ pour des applications militaires, donc comme par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et très, très rapidement, ça s'est transformé vers des... Donc à cette époque-là, c'était des machines mécaniques qu'on utilisait pour chiffrer. Et Turing a développé des machines mécaniques aussi pour essayer d'attaquer ces systèmes. Et ça a donné naissance à l'informatique.
Ce qui montre qu'il y a aujourd'hui également des puissances de calcul illimitées, par exemple pour percer les codes, puisque la plupart d'entre nous ont des mots de passe et aimeraient bien ne pas voir ces mots de passe percés, mais évidemment les fraudeurs se perfectionnent. On va les entendre tout de suite après MGMT Time to Pretend, un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin. Et tout de suite après ce disque, Raphaël Mantoux est allé promener son micro dans une réunion de hackers. Autrement dit, de personnes qui cherchent à percer vos codes.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. I'm
Service public sur France Inter, des mots de passe partout, des mots de passe partout dont il faut se souvenir, des mots de passe partout que certaines personnes malveillantes essayent de craquer, comme on dit, Raphaël Mantoux, je l'avais dit. Vous êtes allé à la rencontre de hackers, des gens qui essayent de trouver nos mots de passe et vous avez essayé de recueillir leurs secrets.
Oui, donc j'ai fait appel à un groupe de professionnels pour pirater le mail de l'émission Service Public. Ils sont une dizaine de geeks, puisque des hackers, à se réunir une fois par semaine pour un café vie privée. Et ces réunions ont pour principe de parler de sécurité sur Internet. Ce soir-là, c'est soirée mot de passe et c'est le geek Genma qui anime le débat. Chacun propose un tour de passe-passe différent pour entrer dans le mail de l'émission. Attention Guillaume, vous allez peut-être devoir changer le mot de passe de l'émission. Les hackers sont en train de se passer le mot.
Prenez les chaises. Vous posez un tour de table pour savoir quels étaient les vœux des personnes autour de la table par rapport à Café Victime.
Ouais, on a eu l'occasion de parler de crypto quand même et de mots de passe.
Oui, avec qui passe.
Qui suis ? Donc moi je m'appelle Genma, G-E-N-M-A, je tiens un blog qui s'appelle le blog de Genma. C'est quoi, comment dire, un bon mot de passe ? On peut parler également de tout ce qui est tracking, surveillance sur Internet.
Donc j'ai noté
les mots de passe. Quand on rentre dans une activité de cette sorte, on ne sait pas du tout si ça va être court ou pas, en fait. Ça peut être extrêmement rapide. Ça peut même ne demander aucune compétence informatique.
La première méthode, c'est pas forcément de penser informatique, c'est de penser humain. Donc la personne a un Gmail. Qu'est-ce que je fais ? Je lui téléphone. Oui, bonjour, je suis administrateur système chez Google. Nous avons rencontré un problème de piratage avec votre compte. J'ai besoin d'y accéder. Pouvez-vous me donner le mot de passe ? Vous répondez quoi ?
Ben non.
Là, première chose que j'ai tenté, c'est quelque chose de très simple. J'ai fait ce qu'on appelle social engineering. C'est je mets la pression, je joue, sur un côté autoritaire. C'est je suis administrateur chez Google, vous allez être considéré comme terroriste, donc j'ai besoin d'accéder pour vérifier, parce que sinon des pirates vont accéder. Donc ça, c'est une première étape qui est très simple, qui n'est pas informatique. Et si on a un petit talent d'acteur ou autre, et ça peut être fait très facilement en entreprise, par exemple. L'appel téléphonique n'a pas marché, donc je vais attendre un petit peu, je vais envoyer un faux mail. Donc un mail qui ressemble à un vrai mail Gmail ou autre, qu'est-ce que vous faites ? Ouais, c'est même noté google.com, vous faites quoi ?
Bah non, je le donne pas.
Beaucoup de personnes utilisent le même mot de passe sur différents sites.
Je connais un site qui permet l'authentification, qui envoie les mots de passe en clair. Quand vous tapez votre mot de passe dans le navigateur, il va envoyer le texte par le réseau. Mais notamment, le plus simple pour hacker les comptes Gmail, Hotmail et tout ça, aujourd'hui, c'est de hacker d'autres comptes, en fait. Donc, effectivement, en général, Gmail, on va pas le hacker directement de front, mais on va utiliser des techniques un peu détournées. Mais ce qui marche très bien pour Gmail, c'est le social engineering, c'est-à-dire demander à la personne, si on connaît la personne, des informations.
Qu'est-ce que vous faites?
Alors, vous avez une boîte Gmail, donc oui. on va créer un compte sur ce site-là avec la boîte Gmail.
Et le mail, c'est France Inter Service Public.
France Inter, tout collé.
@gmail.com.
Mais je ne vais pas hacker le compte Gmail. Hein. Je vais hacker le compte que vous avez créé sur ce site-là, en fait.
Plus c'est long, plus c'est long. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre, c'est un mot de passe de une lettre, on a 26 cas à tester. Un mot de passe de deux lettres, on a 26 fois 26.
Donc là, on s'est inscrit sur un site qui s'appelle Open Food Fac. Vous allez vous connecter. Là, moi, je vais juste enregistrer ce qui se passe sur le Wi-Fi.
Donc là, il y a les captures d'écran, la configuration de
Windows. Ok.
Si j'installe ce genre de choses sur un cybercafé, moi, j'installe la chose, j'attends que quelqu'un passe, et puis après, je reviens chercher.
Et donc, vous êtes mon voisin de cybercafé, alors?
Par exemple.
Pas très sympathique.
Eh ben non.
Vous allez vite, hein.
Donc là, Wireshark. Donc
alors, Wireshark, c'est ce logiciel qui permet...
me permettre, en gros, de voir ce que j'ai enregistré, mais d'une manière un petit peu mieux présentée. Puis, on va aller voir un peu vers la fin ce qui s'est passé.
Alors là, vous avez plein de lignes de code.
Beaucoup de lignes de code, voilà. HTTP, alors c'est pas celui-là.
Et Wireshark, c'est gratuit? Ça se trouve facilement?
C'est gratuit, c'est libre. Vous pouvez le télécharger sans aucun souci. Là, il y a le mot de passe qui est écrit en toutes lettres, ici.
Alors, vous pouvez me dire quel est mon mot de passe?
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Et donc, avec ce mot de passe, vous allez pouvoir entrer dans tous mes...
Si c'est le même que sur Gmail, effectivement, là, je vais probablement m'empresser d'aller tester sur Gmail. Est-ce que c'est le même, justement? Parce que, avec mon... Alors, on a dit France Inter, service public. Et longtemps, je me suis couché, c'était quoi d'autre? De bonne... Alors, peut-être que vous avez choisi un autre mot de passe qui serait plutôt bien, parce qu'on peut faire de copier-coller. Donc oui, effectivement, là, vous avez utilisé un autre mot de passe, donc du coup, le compte Gmail...
Donc là, j'ai un peu hacké le hacker.
Là, on a montré que c'était plutôt une bonne pratique de ne pas mettre les mêmes mots de passe.
Donc, pour protéger votre mail, Guillaume, il est conseillé d'employer des longues phrases. Ce sera du temps perdu pour celui qui le recherche.
Voilà, le mot de passe de Raphaël, c'est Mantoux, Mantoux, Mantoux. On va essayer immédiatement de le craquer, ce mot de passe. On a entendu, en tout cas, qu'il y avait une méthode assez simple de craquer un mot de passe. C'était tout simplement donc de capter via le Wi-Fi les communications qui étaient en cours. Ce qui, nous dit d'ailleurs Rachel sur Twitter, est tout à fait possible dans certains lieux publics, par exemple au McDo où on utilise le Wi-Fi public. C'est véritablement un danger aujourd'hui, Gaëtan Leurent?
Oui, tout à fait. Dès que vous êtes connecté sur un Wi-Fi ouvert, n'importe qui dans la salle peut écouter toutes les communications. Et donc c'est justement là où c'est important d'avoir de la cryptographie, puisque n'importe qui peut être un attaqueur et essayer d'écouter vos communications. Alors normalement, sur les sites web bien faits, votre mot de passe n'est pas envoyé en clair, donc c'est pas un problème. Mais si vous réutilisez vos mots de passe et que vous l'utilisez sur un site qui est faible, donc comme ce qui est expliqué dans le reportage, ça va être un problème. Mais le vrai problème, c'est surtout la réutilisation des mots de passe.
Guillaume Deneau.
Ce qui illustre ce reportage, c'est qu'il y a un éventail de techniques qui est devenu très sophistiqué. Et en réalité, aujourd'hui, on navigue sur le web un peu comme on faisait de la voiture il y a 40 ans. On oublie de mettre sa ceinture. Et mettre sa ceinture, il faut le rappeler, c'est des choses très stupides. C'est un mot de passe différent pour chaque site et des mots de passe compliqués qui ne sont pas juste le nom de la rue où on habite ou le prénom de sa femme. Et ça, sésame, ça marchait du temps d'Alibaba. On a parlé de l'histoire des mots de passe. À l'heure de l'informatique, ça ne marche plus. Voilà, il faut des mots de passe compliqués, différents pour chaque site. C'est un réflexe et malheureusement, nous on avait fait une étude il y a 2 ans. Il y a 9% des Français qui adoptent des comportements sécurisés et qui mettent des mots de passe différents pour chaque site. Le reste met des mots de passe souvent le même, parfois 2-3 mots de passe qui tournent sur tous les sites. On n'a plus le choix, on peut le regretter pour des raisons de mythes autour du mot de passe, mais on n'a plus le choix que de ne mettre des mots de passe compliqués.
Alors si on met un mot de passe et que ce mot de passe, on essaye de le craquer en force, Gaëtan Leurent, lorsqu'on est par exemple sur une messagerie type Hotmail ou autre. Combien de fois faut-il s'y prendre? Parce qu'on se dit malgré tout qu'avec les majuscules, les minuscules, les chiffres, on insiste évidemment sur le fait qu'il faut utiliser des caractères spéciaux dans les mots de passe, tout simplement parce qu'on peut soumettre tous les mots du dictionnaire à un site pour essayer de percer un mot de passe.
Tout à fait. La façon dont un attaquant va essayer de trouver votre mot de passe, c'est qu'il va prendre une liste de mots, donc un dictionnaire, avec aussi des noms propres, peut-être des phrases, des phrases d'œuvres littéraires aussi. Donc longtemps, je me suis couché de bonne heure, ça va pas marcher très longtemps. Et quand on a une longue liste comme ça de mots de passe potentiels, on va tous les envoyer à un serveur. Alors, faut faire attention, il y a quand même deux scénarios un petit peu différents. C'est ce qu'on va appeler des mots de passe, une attaque en ligne ou une attaque hors ligne. Donc dans une attaque en ligne, c'est quand on va devoir interagir avec un service distant. Donc comme un serveur Gmail par exemple, et là à chaque fois qu'on essaye quelque chose, il faut attendre que le serveur réponde, et au bout d'un moment le serveur peut se rendre compte qu'on est en train d'essayer beaucoup de mots de passe et essayer de faire quelque chose pour nous empêcher. Par contre quand on est vraiment sur une attaque hors ligne, donc par exemple si on essaye de débloquer un téléphone qu'on a trouvé dans la rue, là on peut essayer autant de mots de passe qu'on veut. Et on va rapidement pouvoir essayer 10 000, 100 000, 1 million de mots de passe. Ça ne va pas être un problème puisque l'informatique, ça va très très vite. Donc tout le dictionnaire va y passer. Et ensuite,
C'est matériellement possible.
Tout à fait, c'est matériellement possible et c'est comme ça qu'on fait. Et une fois qu'on a mis
ça
tout le dictionnaire,
ça
prend combien de temps? Mais ça dépend combien on veut essayer de mots de passe. Mais pour essayer 1 million de mots de passe, ça va très très vite. 1 milliard, ça passe sans problème. On peut aller très très loin.
Nous avons Jean-Christophe au standard. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre question, bien votre témoignage, Jean-Christophe, vous nous appelez de Bayonne.
Voilà, alors moi en fait je suis expert judiciaire en informatique, donc dans le cadre par exemple de saisie, de tests, je suis amené à casser des mots de passe. Donc effectivement il y a des outils pour casser les mots de passe, ça existe sur internet. Il faudrait juste relever le fait que quand même la tentative pour une personne de casser un mot de passe, c'est quand même 15 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Il y a un article particulier du Code pénal. Donc c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à dire « voilà, c'est facile » et puis c'est vrai que les jeunes ont tendance à le faire. Je suis aussi enseignant en informatique. Bon, on leur apprend à le faire. Il y a quand même un gros risque juridique. Maintenant, sur le mot de passe, il y a un gros antagonisme. C'est-à-dire que, d'une part, vous devez retenir un mot de passe de plus en plus important, donc de plus en plus complexe pour éviter qu'il soit cassé. Et notre mémoire, par rapport à celle des ordinateurs, elle n'est pas infaillible. Et en plus, il faut retenir pour chacun des sites un mot de passe différent. Et donc ça devient complètement impossible. Après, il y a des techniques pour créer des mots de passe qui sont, par exemple, Bayonne for Success. C'est-à-dire, vous tapez un mot en français, vous tapez un chiffre en anglais...
Vous voulez dire qu'il faut utiliser le mot Bayonne comme mot de passe, toujours?
Oui, pas du tout. En fait, vous créez ce qu'on appelle des passe-phrases, c'est-à-dire vous créez des passes qui vous parlent, c'est-à-dire mon chien pour toujours, par exemple. Donc si votre chien il s'appelle Lucky, par exemple, vous tapez Lucky, fort, le chiffre 4, et ever en anglais. C'est-à-dire vous allez mélanger des chiffres anglais, des lettres, des mots anglais, français, et des chiffres et des majuscules. Donc... tout simplement, et vos experts à côté vont pouvoir vous confirmer, on va chercher à grossir le mot de passe pour le rendre de plus en plus complexe, parce qu'il faut savoir que sur Internet, il y a des outils pour casser les mots de passe, il y a des dictionnaires de mots de passe. Donc si vous mettez Paris, Tour Eiffel, etc., ça existe déjà dans des catalogues. Donc c'est des mots qui seront automatiquement testés. Donc vous devez complexifier votre mot de passe tout en pouvant le retenir. Donc c'est là qu'il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle une passe-phrase, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une phrase qui vous parle, mais qui ne s'écrit pas de la même façon qu'elle se parle.
Effectivement, ça peut être une solution. Merci pour ces techniques, Jean-Christophe. On a compris qu'il fallait essayer de placer Bayonne dans son mot de passe. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Dandrieux?
Je pense que l'une des choses importantes qui vient d'être dite là, c'est que il y a une œuvre qui est une œuvre de sécurité qui est très forte. Et qui part du principe que ce à quoi sert le mot de passe, la seule chose à laquelle sert le mot de passe, c'est de protéger de l'information. et d'empêcher des gens, a priori, mal intentionnés, d'y accéder. Il y a une chose qui est importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un double secret dans le mot de passe. Le premier secret, c'est la chose que le mot de passe protège. Le deuxième secret, c'est le mot de passe en lui-même. Et à partir du moment où on demande à la population de s'armer de mots de passe extrêmement complexes avec des longues chaînes, on leur empêche aussi de faire ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir le puissance incantatoire, la puissance magique, c'est-à-dire mettre dans le mot de passe un secret qui lui-même ne doit pas être connu. Donc le nom du chien, le Lucky, le Biarritz, le Bayonne, etc. Et ça, c'est une chose importante parce que c'est la dimension symbolique, en fait, de ce qu'on essaie de cacher ou de ce qu'on essaie de retenir à soi. Et il me semble qu'il y a deux forces ici, c'est très intéressant socialement à voir, qui travaillent presque de manière contradictoire. L'une qui veut nous permettre de cacher nos informations, mais qui, en faisant ça, nous oblige à ne plus utiliser des choses qui sont importantes pour nous et qui est cette valeur symbolique, cette petite chose, ces petits secrets qui, en fait, est véritablement la chose précieuse.
Alors, il y a aussi d'autres manières de se souvenir de son mot de passe et de prendre un mot de passe qui est réputé incraquable, c'est d'utiliser des générateurs de mots de passe. On va en parler tout de suite après Nino Ferrer qui chante Les Cornichons. Les Cornichons, ça pourrait être un mot de passe.
De la moutarde, du pain, du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Service public sur France Inter, des mots de passe partout. Des mots de passe, on en parle notamment avec Gradiva qui est au standard, qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Gradiva.
Oui, bonjour. Alors, comme cornichon, je me pose bien là. Voilà mon problème. J'ai travaillé pendant des mois sur un roman que j'avais terminé. J'ai donc, sur un traitement de texte qui s'appelle openoffice.org. Mm-hmm. Et ma question est, je vois bien donc qu'on peut peut-être trouver des mots de passe sur les messageries, mais serait-ce possible sur openoffice.org? Parce que voilà, que j'ai bien évidemment oublié mon mot de passe. J'étais persuadée de m'en souvenir, donc noté nulle part. Et je suis quelque peu désespérée parce que j'ai ce document, plus quelques autres documents avec le même mot de passe concernant ce travail.
C'est-à-dire que vous aviez protégé le document avec un mot de passe, Gradiva.
Voilà, tout à fait. Et alors ce mot de passe, comme le disait la personne précédente, l'auditeur précédent, j'ai probablement mélangé des majuscules, chiffres, enfin, voilà, c'est peut-être quelque chose d'irréparable.
Eh bien, on va poser immédiatement la question à Gaëtan Laurent, qui est chercheur en cryptographie. Et si l'on veut retrouver un mot de passe qu'on a fixé, parce qu'il y a aujourd'hui, il faut le savoir, un certain nombre de systèmes sur Internet qui demandent des mots de passe qui sont impossibles à retrouver pour des raisons de sécurité.
Tout à fait. Un bon mot de passe, il doit être stocké nulle part. Et donc, si on le perd, ça peut être un problème, en particulier pour chiffrer un fichier. Alors, pour essayer de le retrouver, la question, tout ça dépend. Est-ce que vous avez des informations sur ce mot de passe? Est-ce que vous rappelez une partie du mot de passe?
Non. J'ai essayé plusieurs mots de passe dont j'étais persuadé qu'il était l'un d'eux. Et rien à faire, j'ai mélangé avec des chiffres. Tout ce que je pensais pouvoir avoir fait, je l'ai refait et je suis bloqué.
C'est d'accord, mais il est long votre mot de passe? Vous connaissez
non,
peut-être un mot sans savoir où il est?
Je pense que c'est un mot du dictionnaire. Il n'était pas long, je me revois le taper 7-8 lettres à peu près.
D'accord, mais si c'est un mot de passe relativement court qu'il y a dans le dictionnaire, ça va être possible de tester tous les mots du dictionnaire et d'essayer de le retrouver. Alors, il faut trouver un programme qui fait ça. Pour OpenOffice, je ne saurais pas vous dire s'il y a des choses qui existent, mais il faut chercher un petit peu. Mais moi, ça m'est arrivé une fois d'oublier le mot de passe de mon portable, mais je me rappelais la plupart, il me manquait quelques caractères, et j'ai utilisé un logiciel comme ça pour tester toutes les combinaisons sur les caractères qui me manquaient.
Il se trouve que vous êtes un professionnel de
tout à fait,
profession,
Gaëtan
Laurent, c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que sinon... Mais est-ce que c'est à la portée, disons, d'un informaticien un peu averti, si Gradiva, en Bretagne, veut aller auprès d'un informaticien pour que celui-ci fasse l'opération, est-ce que c'est possible, ou est-ce que ça réclame réellement des compétences hors du commun?
Non, a priori, c'est pas hors du commun. Alors, un logiciel qui marche bien s'appelle John the Ripper, mais je sais pas s'il connaît OpenOffice.org. Il sait faire ça sur un certain nombre de systèmes de mots de passe.
Michel Dandrieux.
Oui, après là, si on était un petit peu littéraire, on pourrait dire qu'il y a peut-être une dimension très légèrement psychanalytique sur ce mot de passe, Gradiva. C'est le mot de passe qui est court, que vous avez perdu, qui vous permet de retrouver, de prendre l'accès à la grande œuvre qui est en fait le livre qui vous attend.
Donc,
voilà. Si c'est pas un mot de passe complexe.
Michel est en train de vous conseiller d'aller voir un informaticien et un psychanalyste, Gradiva. Je ne sais pas si je vais le suivre, mais en tout cas, je préfère souligner sa réponse. Bon, en tout cas, vous avez compris, Gradiva, si vous trouvez un informaticien près de chez vous, il existe des programmes qui peuvent vous permettre de retrouver ce mot de passe. Et puis, il y a d'autres solutions pour ne pas oublier son mot de passe, c'est de faire appel à un générateur de mots de passe, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, Guillaume Deneau, puisque vous représentez ici un générateur de mots de passe qui s'appelle Dashlane. Expliquez-nous en quoi ça consiste, Guillaume Deneau.
Donc, effectivement, on voit qu'il y a un vrai désarroi aujourd'hui des gens. On leur demande d'avoir des mots de passe différents sur tous les sites, des mots de passe compliqués. Et donc, on se retrouve dans les situations qu'on vient d'écouter, où on perd le mot de passe, on l'oublie. Donc, nous, on a créé un outil pour supplier le cerveau, parce qu'en fait, le cerveau n'est pas capable de retenir 50 mots de passe compliqués différents. Et donc, cet outil, c'est un coffre-fort virtuel que vous installez sur votre ordinateur et qui va stocker pour vous des mots de passe compliqués, différents pour chaque site. Ils vont bien sûr être cryptés localement sur votre ordinateur. Et pour vous simplifier la vie, dès que vous vous connectez à un site, Dashlane va remplir pour vous le champ mot de passe. Donc en fait, vous utilisez des mots de passe compliqués, différents pour chaque site, sans avoir à vous en souvenir. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ça simplifie la vie et en plus, ça fait gagner du temps. Et donc voilà, nous, on a 3 millions de personnes aujourd'hui qui l'utilisent et on sent une adoption de plus en plus forte parce que tous les jours, quasiment, on crée des nouveaux comptes sur des sites. Et donc, ce besoin se fait de plus en plus prégnant. Chez les gens.
Évidemment, ce qui terrifie dans votre histoire, c'est que l'on se dit, Guillaume Deneau, que si d'aventure on se fait craquer ce gestionnaire de mots de passe, eh bien la personne qui le craquera aura accès non pas à l'un de mes mots de passe, mais à la totalité de mes mots de passe. Et c'est la raison pour laquelle on redoute, ou en tout cas on se méfie de ce type de solution.
Oui, mais en réalité, encore une fois, les données sont cryptées localement sur votre ordinateur et vous avez un mot de passe maître. et vous êtes le seul à le connaître. Dashlane ne stocke pas ce mot de passe, ne le connaît pas. Et c'est ce mot de passe qui est la clé d'entrée vers Dashlane. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un système de double authentification avec un mot de passe éphémère qui vous est envoyé.
Ah, donc remettre du mot de passe dans le mot de passe.
Pour au moins sécuriser, effectivement, c'est fondamental de sécuriser l'accès à Dashlane. Mais le fait que si vous oubliez votre mot de passe Dashlane, vous devrez recréer un compte Dashlane. Ça peut faire peur, mais en réalité, c'est la garantie absolue de votre sécurité et de la sécurité de vos mots de passe qui sont des sésames aujourd'hui. C'est la clé vers toute votre vie numérique. Il faut absolument garder le contrôle.
Et si je perds l'ordinateur, si on me vole l'ordinateur sur lequel était votre logiciel, qu'est-ce qui se passe ?
Encore une fois, sans votre mot de passe maître, personne ne pourra accéder à Dashlane.
Oui, mais si je veux retrouver mes mots de passe.
Ah ben, on vous conseille d'une part d'utiliser Dashlane. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et vous pouvez accéder en ligne à vos données Dashlane, toujours avec votre mot de passe maître. Donc Dashlane, ce n'est pas juste sur un ordinateur, c'est, si vous voulez, c'est multiplateforme. Vous pouvez accéder à vos identifiants d'un peu partout et ils sont stockés voilà, de manière cryptée, sécurisée.
Jean-Christophe, cet auditeur de Bayonne, veut intervenir à nouveau. Jean-Christophe, bonjour, rebonjour. Est-ce que l'on a craqué votre mot de passe avec Bayonne dedans ?
Alors, non, rebonjour, oui. Alors moi, dans le cadre des cours que je fais en sécurité informatique, j'ai eu des problèmes de messagerie puisque mes élèves se sont amusés à utiliser ce qu'on appelle des logiciels de brute force. C'est-à-dire que tout à l'heure, l'expert en cryptographie vous a parlé de John the Ripper. Bon, il existe des logiciels de brute force qui sont des logiciels qui, en fait, servent à casser les mots de passe. Donc, ils sont beaucoup utilisés. Donc moi, j'ai effectivement complexifié de plus en plus mes mots de passe. Pourquoi ? Parce que il y a un risque. Alors, c'est vrai que se faire voler ses données, c'est un risque majeur. Mais imaginez que, par exemple, on pirate le code internet, le code de connexion de votre box. Et on se connecte ensuite avec votre box et on télécharge des films, on fait des opérations illégales. Le souci, c'est que c'est vous qui allez être responsable. Donc, si vous voulez, il y a une véritable nécessité aujourd'hui de verrouiller un certain nombre de choses. Et alors, vu que l'intervenant précédent en a parlé, ben, j'utilise le système Dashlane, moi, en fait. Tout simplement parce que j'ai aujourd'hui ce que je disais, c'est-à-dire une passe-phrase qui me parle parfaitement. Alors, ça peut être quelque chose... Enfin, c'est une phrase un peu complexe, mais qui vous parle. Et c'est la seule à retenir. Et ensuite, le système, lui, va générer un certain nombre de mots de passe pour les autres sites. Donc, j'ai même plus à les mémoriser. Il me les sort tout seul. Ils sont à disposition sur mon téléphone, sur l'ordinateur, mais toujours codés par ma passe-phrase que je suis le seul à connaître. Mais... ou même cette passe-phrase, je peux l'écrire. Par exemple, je vous disais « Bayonne forever », je peux mettre en français « Bayonne pour toujours » sur un post-it. Personne ne saura que moi, lorsque je tape ce mot de passe, c'est « Bayonne forever ».
C'est-à-dire que vous avez effectivement des moyens de le mémoriser, mais surtout, vous nous dites quelque chose d'important et d'un peu inquiétant à cet égard, Jean-Christophe, c'est qu'il est de notre responsabilité de sécuriser son mot de passe, puisque si d'aventure on se fait craquer son mot de passe, eh bien on peut être responsable des vilainies et des malversations que le hacker aurait commis avec ce mot de passe. On écoute Sophie Unger d'Die Ganze Welt et on essaye de voir quelles sont les conséquences de la sécurisation des mots de passe et la manière dont on peut s'y prendre avec ces multitudes de mots de passe que nous laissons traîner sur la toile.
Ich übe cigarette. Doch was werde ich tun? Wo geh ich hin, wenn das, was ich bin, dir nicht gefällt?
Service public sur France Inter, il est question des mots de passe et sur Internet, beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur les navigateurs tels que Firefox, mais pas uniquement, qui mémorisent les mots de passe et qui vous proposent donc de les retenir. Est-il possible du coup de se faire craquer son navigateur, puisqu'on sait que les navigateurs, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet, communiquent avec un centre éloigné, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, ce qu'ils bricolent, bref. Est-ce raisonnable de faire en sorte que son navigateur mémorise ses mots de passe? Qu'en pensez-vous, Gaëtan Laurent, vous qui êtes chercheur en cryptographie à l'INRIA?
Ah oui, pour moi, c'est une très bonne idée. Ça permet d'éviter de devoir les retenir soi-même. Et si on n'a pas conscience dans le navigateur, on peut utiliser par exemple Firefox. Un des grands intérêts de Firefox, c'est que c'est un logiciel libre. Donc on peut aller regarder le code et on peut regarder exactement comment marche le gestionnaire de mots de passe.
Vous le faites chaque matin, regarder le code de Firefox?
On va pas forcément le faire soi-même, mais le fait que ce soit possible, ça permet de se convaincre que probablement quelqu'un l'a fait, quelqu'un a regardé. Et s'il avait vu quelque chose, il l'aurait dit très fort et tout le monde l'aurait entendu. Donc même si on regarde pas soi-même, c'est une garantie de sécurité très importante, le fait que ce soit possible.
Autre question, lorsqu'on dépose son mot de passe sur Gmail, Hotmail ou n'importe quel système de messagerie, on a évidemment la crainte que ce système de messagerie soit craqué en bloc, c'est-à-dire que des hackers décident de s'emparer des mots de passe. Est-ce possible? Comment ces mots de passe sont-ils conservés? Le sait-on, Guillaume Desnaux?
Alors, si on stocke ses mots de passe dans sa messagerie, on se met vraiment en danger. C'est comme laisser ses clés de voiture sur la table de la cuisine. Un cambrioleur arrive chez vous, il va accéder à tous vos autres services.
Non, je ne parlais pas de cela. D'accord. Sur le fait que ces mots de passe qu'on dépose parce qu'on y est tout simplement obligé, sur sa messagerie, sur son compte en banque, si un jour, eh bien, ces différentes entités sont visitées par des hackers, qu'est-ce qu'on risque? Est-on sûr que, par exemple, Google protège de manière efficace les mots de passe qu'il possède?
Alors, Google les protège de manière efficace, mais il n'y a jamais de 100% dans la sécurité, donc il faut faire attention à ne pas avoir le même mot de passe partout, parce que vous n'êtes jamais à l'abri qu'un site se fasse pirater. Beaucoup de grands sites, que ce soit Evernote, Dropbox, se sont fait pirater historiquement. Et donc, il faut, voilà, le comportement sain, c'est un mot de passe différent. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et puis, on se rend compte également qu'il y a d'autres techniques qui se développent, notamment la reconnaissance d'empreintes digitales, reconnaissance de pupilles. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces techniques? S'agit-il de l'avenir, Gaëtan Laurent? Va-t-on assister progressivement à la disparition des mots de passe?
Alors, je ne pense pas qu'on va assister à la disparition des mots de passe, et en particulier pas à cause du biométrique. Le biométrique, ça peut être utilisé en plus d'un mot de passe, ça peut rajouter une couche de sécurité, mais il ne faut surtout pas remplacer les mots de passe, parce que nos informations biométriques, elles sont visibles, elles sont publiquement envoyées à tout le monde. Si Si vous prenez les empreintes dans ce studio, vous avez nos empreintes digitales à tous les trois. Et vous pouvez, si on utilisait seulement ça pour se connecter à notre compte Gmail, bah vous rentrez directement dessus.
Il semblerait qu'on ait la possibilité de récupérer l'empreinte digitale de quelqu'un avec une simple photo. On peut s'y prendre comme ça maintenant, Guillaume Desnos ?
C'est ce qui a été fait par des hackers allemands au mois de janvier avec le ministre de la Défense allemand. Donc vous voyez que c'est, comme tout système, la biométrie a ses failles. Et ce qui est intéressant aussi avec les mots de passe, il ne faut pas l'oublier, c'est un standard qui s'est imposé parce que ça offre certains avantages. Un mot de passe, quand vous le faites pirater, vous pouvez le changer. On se souvient de la faille Heartbleed, il y a un an, qui a indiqué que tous les navigateurs, potentiellement, certains sites avaient des failles quand l'information était transmise entre votre ordinateur et le navigateur. Donc tous vos mots de passe, potentiellement, sur beaucoup de sites, étaient en risque. Et à ce moment-là, c'était quand même très rassurant de se dire « bon, bah, je change mes mots de passe ». Avec la biométrie, vous ne pourrez pas changer vos empreintes biométriques le jour où il y aura un piratage de la sorte.
Et surtout que dans les James Bond, on coupait le doigt, on le conservait dans la glace. Alors ça, c'est une technique qui a été éventée. Mais pour le ministre allemand dont on a récupéré l'empreinte digitale, on l'a fait avec une simple photo. C'est quand même ça qu'il faut dire. Une simple photo permet de craquer une empreinte digitale.
Alors oui, encore une fois, il y a eu des moyens importants qui ont été mis en œuvre sur ce hacking. On ne va pas faire ça pour Monsieur Tout-le-Monde demain. Mais ça montre, encore une fois, qu'il y a des failles et qu'il n'y a pas de système parfait. Et que donc, c'est bien la biométrie en double authentification, comme vous le précisiez, mais ça ne va pas devenir le standard demain.
Nous avons un dernier auditeur, Bernard, qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Bernard.
Oui, je vous appelle parce que moi j'ai un moyen mnémotechnique qui me permet d'avoir un mot de passe différent pour chaque site et de m'en souvenir à chaque fois. C'est-à-dire que je prends un mot, par exemple, je ne sais pas, le nom de mon hamster quand j'avais 12 ans.
Le nom de votre hamster, comment il s'appelait ?
Par exemple, je mets ensuite
vous répondez pas,
personne
hein,
du site sur lequel je vais. Par exemple, si je vais sur France Inter, je mets FRNCNTR. Et ensuite, entre parenthèses, un chiffre. Ce qui fait que quand je vais, par exemple, sur Gmail, je prends exactement le même mot de mon hamster. Après, je mets GML. Et après, toujours entre parenthèses, un chiffre, le même chiffre. Ce qui fait que ça me permet d'avoir un mot de passe différent pour tous les sites. Et en m'en souvenant toujours. Le problème que j'ai, c'est que si jamais on arrive à me hacker un mot de passe, on peut deviner tous mes mots de passe.
Et oui, si on réussit à comprendre l'algorithme de fabrication de vos mots de passe, Bernard, moi je me demande quel est le prénom de votre hamster. Enfin bon, on va essayer de réfléchir à ça. Michel Dandrieux voulait réagir au témoignage de Bernard.
Moi, ce que je trouve très beau dans la méthode que Bernard a mis au point, c'est qu'en fait, il nous parle de ce qui lui touche personnellement, à savoir la radio qu'il écoute, le hamster, etc. Donc, c'est un mot de passe qui est ancré très fortement dans son histoire personnelle. Ce qui est très beau et ce dont on est en train de s'écarter, c'est la dimension symbolique du mot de passe, c'est-à-dire le mot, vous savez, le fidelio d'Eyes Wide Shut, le mot qui dit bien la fidélité qu'on va rompre quand on passe à l'intérieur du grand bordel. Et si on pouvait faire une espèce de psychanalyse de l'époque en lisant tous les mots de passe qui ont été choisis par les gens, on se rendrait compte d'un truc très beau. Si je fais un truc un peu littéraire, mais je réfléchissais à ça hier soir. Mais, vous savez, René Char disait que les mots, peut-être de passe, qui surgissent, savent de nous ce que nous ignorons d'eux. En fait, ça serait ça, une capacité de lire l'ensemble des mots de passe qu'on utilise dans notre époque pour voir où est-ce qu'est la préoccupation du social. Là, en l'occurrence, dans l'enfance.
Gaëtan Laurent, si l'on veut trouver un mot de passe, il faut le trouver le plus long possible. Il faut le trouver avec des caractères spéciaux. Quelques conseils pour nos auditeurs pour que ceux-ci se construisent des mots de passe plus difficiles à craquer.
Oui, donc un bon mot de passe, ce qui est important, c'est pas vraiment la longueur. Donc par exemple, l'exemple de tout à l'heure...
Longtemps je me suis couché de bonheur, qui est une phrase célèbre, je crois, d'un romancier.
Tout à fait. C'est une phrase qui est assez longue, mais qui en fait est relativement facile à trouver. Il suffit d'éplucher un certain nombre de livres et on va tomber dessus. Donc ce qui est important sur un...
Même si l'on a lu beaucoup de livres et que la chair est triste, c'est long quand même de lire tous les livres.
Ah, c'est long pour un humain, mais pour un ordinateur, c'est pas très long. Donc ce qui est important vraiment dans un mot de passe, c'est qu'il soit difficile à deviner. Donc s'il est long, il va être plus dur à deviner, mais c'est pas exactement la même notion. Et une façon d'avoir des bons mots de passe, c'est de choisir aléatoirement des mots ou des caractères et d'en mettre assez pour avoir un espace total de recherche qui soit suffisamment grand. Donc, par exemple, il y a un système qui s'appelle Diceware qui est pas mal pour ça. C'est une liste de mots Et la façon dont on s'en sert, c'est qu'on va lancer 5 dés. Et avec les 5 chiffres qu'on a obtenus en dés, on va lire dans la liste le mot qui correspond à ce numéro-là. Donc ça fait une liste de 70 000 mots, quelque chose comme ça. Et si on choisit 5 ou 6 mots aléatoirement dans cette liste, ça donne un mot de passe qui va être très sûr et qui va être très difficile à attaquer. Alors ça va être un petit peu plus dur à retenir forcément, mais comme c'est des mots qui existent, on peut se trouver un moyen mnémotechnique de les retenir. Ça permet d'avoir des mots de passe de grande sécurité. Ensuite, on peut aussi avoir, pour des sites pas très importants, on peut aussi se permettre d'avoir des choses moins sûres, comme ce qu'expliquait l'auditeur, par exemple, avec des mots de passe qui sont très semblables, mais pas exactement les mêmes. Ça permet d'éviter des attaques très simples basées sur la réutilisation des mots de passe.
Bayonne, le prénom de votre hamster, par exemple. Ça, on a compris que c'était l'algorithme. Et puis, enfin, on a aussi compris, Guillaume Desnaux, qu'on pouvait utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça coûte combien, un gestionnaire comme Dashlane ?
Alors c'est gratuit, il y a simplement une version premium qui coûte 39 € par an si on veut synchroniser ses données entre son ordinateur et son téléphone. Certaines personnes en ont besoin, d'autres utilisent encore Internet, beaucoup à partir de leur ordinateur et donc n'ont pas ce besoin, c'est selon la volonté de chacun.
Merci à tous les trois de nous avoir expliqué comment sécuriser nos mots de passe. Ce sont des choses qui deviennent de plus en plus importantes. On a compris donc qu'il fallait faire astucieux et ne pas mettre uniquement le prénom de sa première petite amie, si l'on s'en souvient, n'est-ce pas Nagui?
Oh. Ah ouais, moi c'était Maurice. Bon,
Maurice.
Je le dis pour ceux qui veulent craquer mon mot de passe. Ce qui est très très bien, n'empêche, c'est toujours le côté mot de passe oublié, bing, pour qu'on vous renvoie le mail, parce qu'à force d'en inventer des différents et de pas vouloir les stocker.
Bah oui, c'est comme ça que j'ai réussi à craquer tous vos mots de passe.
C'est ça. Si vous pouvez me rendre mes affaires, ça m'aiderait pour interviewer Philippe Torreton, qui est notre invité dans quelques minutes après le journal avec toute la bande originale. Voilà, vous savez tout, Guillaume.
Eh ben, on vous écoute tout de suite après le flash. On peut écouter la bande originale sans mot de passe, c'est ce qu'on va faire après ce flash.